RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi des enfants d'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ambassadeur d'Indonésie en Malaisie veut une coopération touristique entre l'Indonésie et la Malaisie. GBK est l'icône de l'Indonésie pour Earth Hour 2018. L'ambassadeur d'Indonésie en Malaisie inaugure 17 CLC à Sarawak. Les opportunités d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Irlande restent élevées. L'Indonésie construit l'indépendance de l'industrie de la défense. Et enfin, l'Indonésie n'a pas été affectée par la politique commerciale de Trump. Voici le journal complet. L'ambassadeur d'Indonésie pour la Malaisie, Rusdi Kirana, a déclaré que son parti souhaite qu'il y ait la coopération touristique entre l'Indonésie et la Malaisie pour augmenter la visite touristique des pays potentiels comme la Chine. Il ne veut pas que l'Indonésie ne considère la Malaisie que comme un marché potentiel et vice-versa. Il a été dit à l'aéroport international de Miri, jeudi le 15 mars, après la cérémonie d'accueil du premier vol d'une compagnie aérienne d'Indonésie à partir de Pontianak, Kalimantan Ouest, à Miri, Sarawak. Mais la chose importante est que nous, ou la Malaisie et l'Indonésie, voulions essayer. L'Indonésie ne considère pas seulement la Malaisie comme son marché, et aussi la Malaisie ne considère pas seulement l'Indonésie comme son marché. Mais nous essayons de collaborer dans un pays tiers. Nous espérons qu'il y a une joint venture du côté de la promotion, de la danse et des spectacles culturels, l'objectif du commerce et du tourisme. Si nous regardons la géographie, l'Indonésie est ici en bas, tandis que la Malaisie est au-dessous. Et au-dessous de la Malaisie et la Chine. Si les Chinois vont à la Malaisie et aussi à l'Indonésie, ça peut être moins cher. Il y a deux options. À la même occasion, l'ambassadeur a également expliqué quelques exemples de coopération touristique que l'Indonésie et la Malaisie peuvent mettre en œuvre. La coopération de tourisme entre la ville de Kinabalu et Manado, Sulawesi du Nord, Miri et Yogyakarta, et entre Penang et Silangit, Sumatra du Nord. Selon lui, avec la coopération, les relations entre l'Indonésie et la Malaisie seront plus harmonieuses. Le World Wide Fund for Nature, ou WWF l'Indonésie, en collaboration avec le Centre de gestion du complexe de Gelora Bung Karno, GBK, organisera Earth Hour ou une panne de courant samedi le 24 mars 2018 au stade principal de Gelora Bung Karno au sud de Jakarta. La panne de courant du nord de 20h30 à 21h30 heure locale est un symbole de préoccupation pour les questions environnementales et le changement climatique. Lors d'une conférence de presse à la porte jaune de GBK, le président directeur général de WWF de l'Indonésie, Rizal Malik, a apprécié la participation de GBK à l'heure de la Terre 2018 et espère que cette icône indonésienne sera un exemple de panne de 60 minutes. Nous voulons donner la plus grande appréciation à la gestion de Gelora Bung Karno qui a été maintenant rénovée, semble être icône de l'Indonésie qui est prête à participer à ce mouvement Heure de la Terre et le 24 mars. Cette icône de l'Indonésie donnera un exemple en éteignant les lumières pendant 60 minutes. Rizal Malik a ajouté que, comme une nouvelle icône de la fierté nationale, GBK est devenu un symbole de progrès de la mentalité et de l'attitude du peuple et du gouvernement indonésien face aux problèmes environnementaux et aux changements climatiques actuels. Il espère que cette heure de la Terre n'est pas seulement une heure, mais deviendra un style de vie. Donc, nous prêterons toujours attention à la santé et au bien-être de la Terre. Earth Hour 2018 avec le thème Tagar Connect to Earth sera mené simultanément dans au moins 180 pays dans le monde et 60 villes en Indonésie. Cette année, 13 aéroports se sont joints à Angkasa Pura, à savoir les aéroports de Denpasar, de Makassar, de Mataram, de Yogyakarta, de Solo, de Surabaya, de Semarang, de Balikpapan, de Banjarmasin, d'Ambon, de Kupang, de Manado et de Biak. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Malaisie, Rusdi Kirana, a inauguré vendredi le 16 mars à Miri, Sarawak, en Malaisie, 17 nouveaux centres d'apprentissage communautaire au CLC dans la région du Sarawak. Le CLC est un centre d'apprentissage destiné aux enfants des travailleurs migrants indonésiens, ou BMI, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de plantation dispersés dans diverses régions de Sarawak. Dans une conférence de presse dans l'une des CTC dans les plantations de palmiers en ville Sashu Yuang Group à Miri, l'ambassadeur Rusdi Kirana a dit « En plus de la construction du nouveau CLC à Sarawak, le gouvernement indonésien prévoit également de construire les écoles professionnelles comme une continuation de l'éducation de base dans le CLC. »
Kalau di Sarawak itu targetnya 50 dan
si à Sarawak, la cible est 5 ans et maintenant il y en a 12. La cible sur ce voyage était construite 17. Donc les 19 premières doivent avoir été fonctionnées. Aujourd'hui, nous avons inauguré 17 à 36. Nous avons un objectif de 5 ans jouant à Sarawak. Pour Sabah, nous allons construire une école professionnelle à partir de l'école primaire, l'école secondaire. Nous allons orienter vers les écoles professionnelles, comme a déjà mentionné, culinaire, l'hospitalité et le mécanique. Espérons qu'à la fin de Lebaran, nous faisons des percées à les construire. Le fonds existe déjà. L'ambassadeur Rusdi Kirana a ajouté que l'objectif de la construction de 50 CLC au Sarawak en 2018 était une forme de l'engagement du gouvernement indonésien de continuer à fournir l'accès à une éducation décente, y compris pour les enfants de BMI qui sont dans les plantations de Sarawak. Il croit aussi, si les enfants de BMI vont à l'école, sans aucun doute, l'avenir de leur vie est meilleur, ne plus continuer le travail des parents dans la plantation. Par conséquent, avant d'atteindre cet objectif, l'ambassadeur Rusdi Kirana a demandé le rôle actif des parents à encourager leurs enfants à étudier à la CLC qui a été fournie dans l'environnement de plantation. Le ministre ou chef de l'Agence nationale de planification du développement, BAPENAS, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le potentiel d'investissement du Royaume-Uni et de l'Irlande en Indonésie était encore élevé, en particulier dans le domaine des finances et des services. Cela a été confirmé par le ministre Bambang en marge du Forum d'investissement et d'infrastructure de l'Indonésie, IIIF, à Londres récemment. Ce forum est organisé par l'Agence de coordination des investissements de Londres avec le soutien de l'ambassade de l'Indonésie à Londres. Ce forum, qui s'est tenu les 15 et 16 mars 2018, est une série de promotion des investissements dans les infrastructures indonésiennes qui a également eu lieu à Dublin, en Irlande. Il a également déclaré que l'Irlande avait été choisie en raison de la forte migration des institutions financières. Le ministre Bambang a ajouté que le potentiel de l'Irlande est très prometteur pour anticiper le Brexit, car l'Irlande appartient toujours à l'Union européenne. Pendant ce temps, les opportunités au Royaume-Uni sont également assez élevées. De nombreux aspects restent intacts, en particulier dans le domaine des infrastructures et des services. Il a également révélé que l'Indonésie développe actuellement intensivement le secteur du tourisme à travers l'introduction de 10 nouveaux bâlis, même si l'infrastructure n'est pas gérée de manière optimale. Ainsi, le Forum d'investissement et d'infrastructure de l'Indonésie, IIIF, devient un événement pour inviter les investisseurs britanniques et irlandais à investir en Indonésie à travers un système alternatif de financement de l'infrastructure non budgétaire du gouvernement. Le secrétaire général du ministère de la Défense, le maréchal Hadian Suminta Atmaja, a affirmé que l'Indonésie est actuellement en train de construire l'indépendance de l'industrie de la défense dans le but de réduire le volume des armements importés. Il l'a exprimé lors d'un séminaire intitulé « Le commerce de défense indo-britannique » à Jakarta récemment. Selon lui, sa partie coopère avec certains pays, y compris la Grande-Bretagne, pour établir l'industrie de défense et remplir les équipements de défense. Il a confirmé que l'achat de matériel de défense est fait pour ne pas menacer d'autres pays, mais comme une forme de défense de l'Indonésie elle-même. Lors du séminaire, il a été révélé que l'Indonésie était incluse sur la liste des 10 grands pays importateurs d'équipements de défense dans le monde. Précisément, l'Indonésie est dans la 10e position. À cet égard, Hadian Suminta Atmaja a déclaré que l'Indonésie devrait être en mesure de maintenir sa position. Cela signifie que l'Indonésie devrait être en mesure de construire immédiatement son industrie de l'armement. L'aspect des exportations et des importations dans le commerce international par le gouvernement est considéré comme pas affecté par la politique d'importation appliquée par le président des États-Unis Donald Trump récemment. L'une d'elles est le tarif élevé des importations d'acier et d'aluminium. Le chef de l'Agence centrale des statistiques, BPS, Suharyanto, lors d'une conférence de presse à Jakarta, a mentionné « Les exportations indonésiennes de l'acier et de l'aluminium vers l'Amérique est encore faible, de sorte qu'ils ne soient pas détectés par BPS. » Il a expliqué « Les exportations de l'Indonésie vers l'Amérique au cours de février 2018 avaient été enregistrées à 1,2 milliard de dollars américains. Les produits exportés n'incluent pas les catégories ou les types de produits soumis aux politiques de protection des États-Unis. Il a dit que la plupart des pays dans le monde étaient dérangés avec la nouvelle politique tarifaire d'importation appliquée aux États-Unis. Si cette condition continue, il y a des craintes perturbent la croissance économique mondiale, ce qui pourrait affecter la croissance économique de l'Indonésie. Pour l'anticiper, selon Suharyanto, le gouvernement devrait améliorer le secteur des exportations qui est encore très dépendant des ressources naturelles et des matières premières. Chers lecteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Denpasar, Bali. Un convoi de barong, rangda et d'autres objets sacrés qui sont consacrés par la communauté dans le quartier de village Pekraman, soit Kutum, dans la ville Denpasar, et entourant colore la mise en œuvre de rituel melasti à la plage Padanggalak Sanur, mercredi 14 mars. Divers objets sacrés ont été amenés à la promenade à la plage avec l'accompagnement rythmique des instruments de musique traditionnelle de Bali, le gong, blaganjur, martelement, étant une série du jour sacré Nyepi en Nouvel An Saka 1940. Des milliers de personnes portant des vêtements traditionnels balinais, combinaisons de couleurs blanches et jaunes, ont participé aux activités rituelles qui sont l'attraction principale pour les touristes étrangers qui profitent des vacances à l'île Bali. La communauté du village Pakraman Tembau, village Penatih, à Denpasar Est, ont participé au rituel à la plage Sanur qui se mêle à d'autres villages indigènes. Le chef du village Pakraman Tembau, Made Merta, a déclaré que le rituel Melasti vise à purifier les éléments Buana Agung ou univers et Buana Alit ou des éléments à l'état brut, vous-même. L'activité implique tous les résidents locaux, y compris ceux qui ont voyagé dans divers endroits à Bali et en dehors de Bali. Le président de l'Association Hindu Dharma d'Indonésie de la province Bali, le professeur Dr. Igusti Ngurah Sudiana MSI, a expliqué les activités Melasti en plus portées à la plage. Il y a aussi un village traditionnel qui le fait au lac pour les gens qui vivent dans les montagnes ou les sources à proximité du village traditionnel étant loin de la plage ou du lac. Ensuite, l'info de Yogyakarta. L'adjoint du maire de Yogyakarta, Heru Purwadi, va augmenter les heures d'opération des marchés traditionnels jusqu'au soir, en particulier les marchés qui vendent beaucoup de souvenirs pour les touristes. Selon lui, un marché traditionnel approprié pour soutenir le développement des attractions de la vie nocturne est un marché qui fournit des souvenirs pour les touristes, par exemple le marché Bringharjo et le marché Ngasem. Heru a ajouté d'autres attractions touristiques qui ont également le potentiel de soutenir le développement des attractions de la vie nocturne à Yogyakarta et Taman Pintar, qui a été fermé à 17h. L'ajout d'heures de fonctionnement au marché Bringharjo et à Taman Pintar peut également soutenir le développement de la zone Malioboro qui sera utilisée comme voie piétonne. Le gouvernement de la ville Padang fournira des autobus gratuits aux touristes dans le but de renforcer la promotion du secteur touristique de la ville. Le chef du tourisme et de la culture de Padang, Mehdi Iswandi, lundi 12 mars, a déclaré que l'autobus ne fonctionne que le samedi, dimanche et jours fériés et gratuit pour tous les citoyens et les touristes. Le lancement du bus aura lieu à la fin de mars 2018. Mehdi a déclaré, pendant le voyage en bus, les passagers peuvent voir la plage, la pagode, la mosquée, la vieille ville, la fleuve Batang Arau, le mont Padang, le petit port Muaro et la route sinueuse à Bukit Gado-Gado dans la zone touristique intégrée du mont Padang. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 17 mars. Le 17 mars 1969, Golda Meir devenait la première femme à servir le premier ministre israélien. Du 17 mars 1969 au 3 juin 1974, Golda Meir était la première femme à servir le premier ministre israélien. Précédemment, elle a été ministre du Travail et ministre des Affaires étrangères. Golda Meir obtient le titre de dame de fer dans la politique israélienne. Le 17 mars 1963, le Mont Agung à Bali a éclaté. Le Mont Agung est la plus haute montagne à l'île Bali avec une altitude de 3142 mètres. Cette montagne est située dans le district Rendang, région Karangasem Bali. À la suite de l'éruption du Mont Agung, environ 2000 habitants de Bali sont morts. Le Mont Agung est un volcan de type stratovolcan. Cette montagne a un cratère très grand et très profond qui émet parfois de la fumée et de l'humidité. Le 17 mars 1984, le premier bébé tube en Asie du Sud-Est est né à Sukabumi, Java West. Le bébé tube ou la fécondation in vitro est une technique de fécondation dans laquelle l'ovule est fécondé à l'extérieur du corps féminin. Le bébé tube est une méthode pour surmonter les problèmes de fertilité lorsque les autres méthodes ne fonctionnent pas. Le processus consiste à contrôler le processus de l'ovulation par voie hormonale, l'élimination de l'ovule, de l'ovaire et la fécondation par les spermatozoïdes dans un milieu liquide. Le processus de bébé tube en Asie du Sud est né pour la première fois à Sukabumi, Java West. La technologie a été mise au point par PC Step 2 et RG Edwards en 1977. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre, soutien à l'industrie 4.0. Le gouvernement optimise le centre de développement de l'innovation. L'Indonésie a un grand potentiel dans le développement de la quatrième révolution industrielle ou industrie 4.0 qui vise à améliorer l'efficacité et la qualité des produits manufacturés nationaux pour être plus compétitif. Pour atteindre ces objectifs, des centres d'innovation sont nécessaires afin de soutenir l'amélioration des compétences en ressources humaines et le développement de nouveaux entrepreneurs prêts à mettre en œuvre les dernières technologies numériques. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, lorsqu'il était conférencier invité au Learning Innovation Summit 2018 à Jakarta, mercredi 14 mars. Erlangga Hartarto a déclaré que le gouvernement a préparé diverses infrastructures de soutien. En termes de développement de cette industrie numérique, le ministère de l'Industrie a facilité la construction de bâtiments d'incubation pour les entreprises en démarrage, entre autres à Bandung Technopark, Bali Creative Industry Center ou Tohpati Center, Incubator Business Center à Semarang, Makassar Technopark et Mobile Phone Design Center à Batam. Ces régions deviennent la base de l'innovation et de la créativité pour les acteurs de l'industrie du numérique qui souhaitent développer les logiciels, des applications web, des films, des animations et d'autres programmes numériques. Le ministre Erlangga Hartarto estime que le développement de la start-up en Indonésie va croître de manière significative au fur et à mesure que la dynamique démographique s'accélérera, car l'activité est en forte demande par génération millénaire. Pour cela, les jeunes Indonésiens doivent maîtriser l'anglais, les statistiques et le codage. Selon le ministre Erlangga, ce matériel peut être appris en 6 mois et l'Indonésie est prête à être une solution dans l'économie numérique. Le ministre Erlangga a expliqué avec un centre de recherche applicatif tel que Technopark, détenu par le ministère de l'Industrie, que l'Indonésie deviendrait la plus grande économie numérique en Asie du Sud-Est en 2020 en ciblant 1000 technopreneurs, une valeur commerciale de 100 milliards de dollars américains et la valeur totale du commerce électronique d'un montant de 130 milliards de dollars américains. Le ministre de l'Industrie a également déclaré que son parti prépare une carte routière pour la stratégie de l'Indonésie d'appliquer la technologie de l'industrie 4.0. La technologie inclut l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, Big Data, la robotique et l'impression 3D. Le ministre Erlangga a mentionné qu'il y a 5 industries de phare que le gouvernement prépare, à savoir l'industrie de l'alimentation et des boissons, les textiles et les vêtements, l'automobile, l'électronique et les produits chimiques. Selon le ministre Erlangga, l'Indonésie est devenue un pays potentiel pour la croissance et le développement du commerce électronique, car il est devenu le plus grand marché de l'ASEAN. Ce potentiel est soutenu par une population de plus de 250 millions de personnes. La pénétration d'Internet a atteint 90,5 millions de personnes et parmi elles, environ 26,3 millions de personnes ont fait des achats en ligne. En outre, à l'heure actuelle, à l'ASEAN, il y a environ 7 licornes ou sociétés en démarrage dont les évaluations dépassent 1 milliard de dollars américains. 4 d'entre eux viennent de l'Indonésie, à savoir Bukalapak, Traveloka, Tokopedia et Gojek. Le ministre de l'Industrie a ajouté que la puissance économique de l'Indonésie est considérée comme l'un des principaux acteurs qui encouragent la croissance économique mondiale. L'Indonésie est en mesure de contribuer 2,5% à la croissance mondiale, où elle surpasse la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, l'Angleterre, le Japon, le Brésil et la Russie. Chers amis, c'était mon Indonésie.
L'ambassade d'Indonésie pour la Malaisie, Rusdi Kirana, a déclaré que son parti souhaite qu'il y ait la coopération touristique entre l'Indonésie et la Malaisie pour augmenter la visite touristique des pays potentiels comme la Chine. Il ne veut pas que l'Indonésie ne considère la Malaisie que comme un marché potentiel et vice-versa. Il a été dit à l'aéroport international de Miri, jeudi le 15 mars, après la cérémonie d'accueil du premier vol d'une compagnie aérienne d'Indonésie à partir de Pontianak, Kalimantan Ouest, à Miri, Sarawak. Mais la chose importante est que nous, ou la Malaisie et l'Indonésie, voulions essayer. L'Indonésie ne considère pas seulement la Malaisie comme son marché, et aussi la Malaisie ne considère pas seulement l'Indonésie comme son marché. Mais nous essayons de collaborer dans un pays tiers. Nous espérons qu'il y a une joint-venture du côté de la promotion, de la danse et des spectacles culturels, l'objectif du commerce et du tourisme. Si nous regardons la géographie, l'Indonésie est ici en bas, tandis que la Malaisie est au-dessous et au-dessous de la Malaisie et la Chine. si les Chinois vont à la Malaisie et aussi à l'Indonésie, ça peut être moins cher. Il y a deux options. À la même occasion, l'ambassadeur a également expliqué quelques exemples de coopération touristique que l'Indonésie et la Malaisie peuvent mettre en œuvre. La coopération de tourisme entre la ville de Kinabalu et Manado, Sulawesi du Nord, Miri et Yogyakarta, et entre Penang et Silangit, Sumatra du Nord. Selon lui, avec la coopération, les relations entre l'Indonésie et la Malaisie seront plus harmonieuses. Le World Wide Fund for Nature ou WWF l'Indonésie, en collaboration avec le Centre de gestion du complexe de Gelora Bung Karno, GBK, organisera Earth Hour ou une panne de courant samedi le 24 mars 2018 au stade principal de Gelora Bung Karno au sud de Jakarta. La panne de courant d'une heure de 20h30 à 21h30 heure locale est un symbole de préoccupation pour les questions environnementales et le changement climatique. Lors d'une conférence de presse à la porte jaune de GBK, le président directeur général de WWF de l'Indonésie, Rizal Malik, a apprécié la participation de GBK à l'heure de la Terre 2018 et espère que cette icône indonésienne sera un exemple de panne de 60 minutes. Nous voulons donner la plus grande appréciation à la gestion de Gelora Bung Karno qui a été maintenant rénovée, semble être icône de l'Indonésie qui est prête à participer à ce mouvement Heure de la Terre et le 24 mars. Cette icône de l'Indonésie donnera un exemple en éteignant les lumières pendant 60 minutes. Rizal Malik a ajouté que, comme une nouvelle icône de la fierté nationale, GBK est devenu un symbole de progrès de la mentalité et de l'attitude du peuple et du gouvernement indonésien face aux problèmes environnementaux et aux changements climatiques actuels. Il espère que cette heure de la Terre n'est pas seulement une heure, mais deviendra un style de vie, donc nous prêterons toujours attention à la santé et au bien-être de la Terre. Earth Hour 2018 avec le thème Tagar Connect to Earth sera mené simultanément dans au moins 180 pays dans le monde et 60 villes en Indonésie. Cette année, 13 aéroports se sont joints à Angkasa Pura, à savoir les aéroports de Denpasar, de Makassar, de Mataram, de Yogyakarta, de Solo, de Surabaya, de Semarang, de Balikpapan, de Banjarmasin, d'Ambon, de Kupang, de Manado et de Biak. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Malaisie, Rusdi Kirana, a inauguré vendredi le 16 mars à Miri, Sarawak, en Malaisie, 17 nouveaux centres d'apprentissage communautaire ou CLC dans la région du Sarawak. Le CLC est un centre d'apprentissage destiné aux enfants des travailleurs migrants indonésiens ou BMI, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de plantation dispersés dans diverses régions de Sarawak. Dans une conférence de presse dans l'une des CTC dans les plantations de palmiers à huile Sashu Yuang Group à Miri, l'ambassadeur Rusdi Kirana a dit: en plus de la construction du nouveau CLC à Sarawak, le gouvernement indonésien prévoit également de construire les écoles professionnelles comme une continuation de l'éducation de base dans le CLC. Si à Sarawak, la cible est 5 ans et maintenant il y en a 12. La cible sur ce voyage était construite 17. Donc, les 19 premières doivent avoir été fonctionnées. Aujourd'hui, nous avons inauguré 17 à 36. Nous avons un objectif de 5 ans jouant à Sarawak. Pour Sabah, nous allons construire une école professionnelle à partir de l'école primaire, l'école secondaire. Nous allons orienter vers les écoles professionnelles, comme a déjà mentionné, culinaire, l'hospitalité et le mécanique. Espérons qu'à la fin de l'Ebaran, nous faisons des percées à les construire. Le fonds existe déjà. L'ambassadeur Rusdi Kirana a ajouté que l'objectif de la construction de 50 CLC au Sarawak en 2008 était une forme de l'engagement du gouvernement indonésien de continuer à fournir l'accès à une éducation décente, y compris pour les enfants de BMI qui sont dans les plantations de Sarawak. Il croit aussi, Si les enfants de BMI vont à l'école, sans aucun doute, l'avenir de leur vie est meilleur. Ne plus continuer le travail des parents dans la plantation. Par conséquent, afin d'atteindre cet objectif, l'ambassadeur Rusdi Kirana a demandé le rôle actif des parents à encourager leurs enfants à étudier à la CLC qui a été fournie dans l'environnement de plantation. Le ministre ou chef de l'Agence nationale de planification du développement, BAPNAS, Bambang Brojonegoro, a déclaré que le potentiel d'investissement du Royaume-Uni et de l'Irlande en Indonésie était encore élevé, en particulier dans le domaine des finances et des services. Cela a été confirmé par le ministre Bambang en marge du Forum d'investissement et d'infrastructure de l'Indonésie, IIIF, à Londres récemment. Ce forum est organisé par l'Agence de coordination des investissements de Londres avec le soutien de l'ambassade de l'Indonésie à Londres. Ce forum, qui s'est tenu les 15 et 16 mars 2018, est une série de promotion des investissements dans les infrastructures indonésiennes qui a également eu lieu à Dublin, en Irlande. Il a également déclaré que l'Irlande avait été choisie en raison de la forte migration des institutions financières. Le ministre Bambang a ajouté que le potentiel de l'Irlande est très prometteur pour anticiper le Brexit, car l'Irlande appartient toujours à l'Union européenne. Pendant ce temps, les opportunités au Royaume-Uni sont également assez élevées. De nombreux aspects restent intacts, en particulier dans le domaine des infrastructures et des services. Il a également révélé que l'Indonésie développe actuellement intensivement le secteur du tourisme à travers l'introduction de 10 nouveaux bâlis, même si l'infrastructure n'est pas gérée de manière optimale. Ainsi, le Forum d'investissement et d'infrastructure de l'Indonésie, IIIF, devient un événement pour inviter les investisseurs britanniques et irlandais à investir en Indonésie à travers un système alternatif de financement de l'infrastructure non budgétaire du gouvernement. Le secrétaire général du ministère de la Défense, le maréchal Hadian Suminta Atmaja, a affirmé que l'Indonésie est actuellement en train de construire l'indépendance de l'industrie de la défense dans le but de réduire le volume des armements importés. Il l'a exprimé lors d'un séminaire intitulé « Le commerce de défense indo-britannique » à Jakarta récemment. Selon lui, sa partie coopère avec certains pays, y compris la Grande-Bretagne, pour établir l'industrie de défense et remplir les équipements de défense. Il a confirmé que l'achat de matériel de défense est fait pour ne pas menacer d'autres pays, mais comme une forme de défense de l'Indonésie elle-même. Lors du séminaire, il a été révélé que l'Indonésie était incluse sur la liste des 10 grands pays importateurs d'équipements de défense dans le monde. Précisément, l'Indonésie est dans la 10e position. À cet égard, Hadian Suminta Atmaja a déclaré que l'Indonésie devrait être en mesure de maintenir sa position. Cela signifie que l'Indonésie devrait être en mesure de construire immédiatement son industrie de l'armement. L'aspect des exportations et des importations dans le commerce international par le gouvernement est considéré comme pas affecté par la politique d'importation appliquée par le président des États-Unis, Donald Trump, récemment. L'une d'elles est le tarif élevé des importations d'acier et d'aluminium. Le chef de l'Agence centrale des statistiques, BPS, Suharyanto, lors d'une conférence de presse à Jakarta, a mentionné « Les exportations indonésiennes de l'acier et de l'aluminium vers l'Amérique est encore faible, de sorte qu'ils ne soient pas détectés par BPS. » Il a expliqué les exportations de l'Indonésie vers l'Amérique au cours de février 2018 avaient été enregistrées à 1,2 milliard dollars américains. Les produits exportés n'incluent pas les catégories ou les types de produits soumis aux politiques de protection des États-Unis. Il a dit que la plupart des pays dans le monde étaient dérangés avec la nouvelle politique tarifaire d'importation appliquée aux États-Unis. Si cette condition continue, il y a des craintes perturbent la croissance économique mondiale, ce qui pourrait affecter la croissance économique de l'Indonésie. Pour l'anticiper, selon Suharyanto, le gouvernement devrait améliorer le secteur des exportations qui est encore très dépendant des ressources naturelles et des matières premières.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, n'importe où que vous soyez, on se rencontre dans la rubrique du Magazine Culturel. Dans cette édition, je vous inviterai à voyager au Moluques pour profiter de la beauté de la place Dora. Alors restez avec nous à RRI du service mondial de la Voix de l'Indonésie que vous pouvez écouter par www.voinews.id. La plage Dora se trouve à l'île de Seram, au district de Seram du Nord, Moluques Central, Moluques, Indonésie. Cette plage est située à l'extrémité ouest de la baie de Sawai. Elle est entre deux villages. Ce sont le village Sleman et Sawai, au bord de la forêt du parc national de Manusela. Elle a des caractéristiques de sable blanc avec de l'eau très claire et calme, ainsi que la richesse de la chef de corail, des poissons et de diverses autres biotes marins. La place Dora n'a pas de vaste terre parce que là, la terre est une falaise ou une colline de roches qui est assez raide. Cependant, vous pouvez escalader de ce rocher. Là, les touristes peuvent faire de la plongée. Les touristes n'ont pas besoin de plonger trop profondément car seulement à une profondeur de 2 à 3 mètres. Vous pouvez profiter de la beauté de divers récifs coralliens et des petits poissons sur la mer de la plage Dora. On peut également faire de la plongée dans un endroit qui est proche de la falaise. C'est une chose rare et excitante. À la place Dora, les touristes peuvent également utiliser des bateaux à moteur ou des bateaux de pêche pour profiter du paysage autour du parc national de Manusela. En outre, les touristes peuvent également faire le tour dans certaines petites îles de la baie de Sawai, telles que l'île Sawai, l'île Raja, l'île Kelelawar, l'île Tujuh, l'île Tengah et l'île Sapalewa. Vous avez seulement besoin d'environ 30 minutes pour faire le tour des îles. Chers auditeurs, si vous venez de la ville d'Ambon, la porte de la place Dora est le port de Hulnara, Toleho. Dans le port qui est plus connu sous le nom de port de Toleho, il y a un ferry de passagers de 350 places, dont la destination est le port d'Amahai, l'île Seram, qui circule 2 fois par jour. Du port d'Amahai, vous pouvez prendre Trans Seram, dont le temps de voyage est d'environ 2,5 heures. Car il n'y a pas de transport public au port de Villa Saleman qui relie la plage Dora. Pendant le voyage, vous ne vous ennuierez pas car vous passerez la belle voie de montagne et la zone du parc national de Manusela. Quand vous arrivez au port de Desa Saleman, vous avez besoin d'environ 10 minutes pour arriver à la plage Dora. Au port de Villa Saleman, un petit bateau à moteur vous conduira à profiter de la beauté de la célèbre place Dora avec un paradis caché dans l'est de l'Indonésie. Serviteur, si vous voulez passer des vacances à la place Dora, vous pouvez choisir le logement qui convient à votre poche, car il y existe des logements à des prix variables. Vous pouvez également rester chez les résidents locaux. Pour ceux d'entre vous qui aiment camper, vous pouvez également apporter votre propre matériel de camping et installer une tente près de la falaise. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui aiment les vacances à la plage, n'oubliez pas d'inscrire la place Dora dans votre liste de vacances. Préparez le caméra pour immortaliser sa beauté. L'eau claire et bleue et la beauté des collines verdoyantes du parc national de Manusela. En outre, apportez votre propre équipement de plongée. Quand vous faites de la plongée, vous devez faire attention afin de ne pas endommager les coraux vivants sur cette plage. Serviteurs, c'était le magazine Cultura pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre, le potentiel de poissons serpents comme anti-hypertenseur. Le poisson serpent est un type de poisson qui vit dans l'eau douce comme les lacs, les marécages, les rivières, les canaux d'eau pour les rizières. Il se répand dans des pays comme le Pakistan, le sud du Népal, certaines parties de l'Inde, le Bangladesh, le sud de la Chine, une grande partie de l'Asie du Sud-Est, y compris l'Indonésie. Le poisson serpent protège ses enfants sur la bouche jusqu'à certains âges. Ces poissons appartiennent à des espèces prédatrices. Donc, cela nécessite une manipulation spéciale et une formation dans sa culture. Le poisson serpent a une teneur très élevée en albumine et en protéines. Diverses études ont été menées par les parties prenantes pour obtenir plus d'avantages du poisson serpent, comme la recherche menée par les conférenciers et les étudiants de l'Université agricole de Bogor, IPB, pour connaître le potentiel du poisson serpent en tant qu'antioxydant et anti-hypertenseur. Ils sont Dr. Mala Nuril Mala, Dr. Ekowati Hasana et les étudiants de la Faculté des pêches et des sciences de la mer IPB, Ayuratih Purnamasari. Cette recherche a été menée en collaboration avec le Centre de recherche et de développement du traitement des produits et de la biotechnologie du milieu marin et des pêches. L'équipe a utilisé du poisson serpent naturel et du poisson serpent cultivé pour comparer la teneur en protéines et son potentiel en tant qu'antioxydant et anti-hypertenseur. D'après les résultats des recherches, on sait que la teneur en protéines, l'activité antioxydant du poisson serpent, sont supérieures à celles du poisson serpent naturel. Les poissons cultivés ont également des valeurs inhibitrices de l'ECA pour les tests anti-hypertenseurs supérieurs à celles du poisson serpent naturel. Dr. Mala a déclaré que le poisson serpent naturel et cultivé ont la capacité d'un antioxydant, bien que la teneur soit encore faible et anti-hypertensif avec une force de 1 pour 10 de la puissance des médicaments anti-hypertenseurs commerciaux captopril. Il a ajouté que cette recherche vise à découvrir le potentiel des extraits de protéines brutes, de poissons serpents naturels et de la culture comme antioxydants et anti-hypertenseurs. Selon lui, en plus d'avoir une teneur élevée en protéines, le poisson serpent est aussi un anti hypertenseur potentiel en raison de sa teneur en protéines et soutient les activités antioxydantes qui contiennent des minéraux de zinc, de cuivre et de fer dans le corps. Ce poisson comprend également des produits à haute valeur économique et en potentiel en tant que biopharmaca, car les composants d'une protéine complète accélèrent la guérison des maladies infectieuses et des niveaux accrus d'albumine des personnes atteintes d'hypoalbuminémie et anti-inflammatoire. En outre, le poisson serpent contient des acides gras tels que l'acide eicosapentaénoïque, acide docosahexaénoïque qui joue un rôle dans le maintien du fonctionnement du cerveau et de la rétine de l'œil. Docteur Maladie, pendant ce temps, plus de poissons de serpent pris directement de la nature. Cependant, à cette époque, le poisson de serpent a commencé à être cultivé pour maintenir la durabilité de sa disponibilité dans la nature. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est Xami de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine de musique. Ce programme présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un groupe de musique appelé Malik et d'Essential. Malik et d'Essential a été fondé le 15 mai 2002 avec 9 membres. Le voyage de la carrière en tant que musicien a commencé d'être le groupe de musique de café en petit pub dans un hôtel à 5 étoiles à Jakarta. Ils gagnent la popularité depuis qu'ils apparaissent à Jakarta International Jazz Festival de 2005. Actuellement, la popularité du groupe de musique Malik et d'Essential en Indonésie est en augmentation. Depuis le début de sa carrière à 16 jours, ils ont sorti un total de 6 albums. Le 6e album, intitulé Pop Music, a été sorti le 15 mai 2014. Chers auditeurs, on écoute sa première chanson intitulée Himalaya. Bonne écoute.
Coba hayalkan sejenak 10 tahun nanti hidupmu. Coba bayangkan sejenak, misalkan ada aku yang menemani hari demi hari yang tak terhitung. Misalkan itu aku yang terakhir untukmu. Untuk itu kan ku persembahkan Himalaya. Bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya. Balutkan pelita hatimu di aku dan kamu. Pastikan kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi bersama tujuh warna pelangi. Misalkan semua terjadi meski belum terjadi, sekarang kita renungkan sejenak cara agar semua bisa terjadi. Walau ku tahu tak semudah itu, tapi coba sekali lagi. bersama tujuh warna pelangi.
Le 15 mai 2015, le groupe de musique Malik et d'Essentiel a sorti le single intitulé Aurora. La rangement d'Aurora, inspiré par la musique discothique, électro et pop des années 1980. Cette chanson est dédiée à toutes les personnes qui aiment sa famille, son travail, ses loisirs, sa maison, sa petite amie et sa vie. Aurora est un phénomène naturel tout au long de l'année sous la forme de lumière naturelle rougeur ou verte qui apparaît généralement dans l'extrémité nord ou au sud de la Terre. L'arrangement d'Aurora, inspiré par la musique discothique, électro et pop des années 1980, avec un ton positif, gai et optimiste. Bon, chers amis, on va écouter une chanson suivante du groupe musical Malik et d'Essentiel intitulé Ananda. Bonne écoute.
Daisan, sambut kebahagiaan, lahir sang buah hati wujud cinta manusia. Bersujud dalam pujian, hingga suatu hari dia akan berjalan ke dunia dengan pilihannya. Selamat datang sayang. Ananda, dewasalah dengan cara yang kau percaya. Sempurna hanya di surga. Peluk aku saat kau ragu, selama ku masih di dunia. Bernafas bersama, selamat datang sayang. Di kehidupan yang berjalan, yang tak pernah berubahnya, perubahan yang
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.